quoi de neuf là-haut avec le chaos?
It's one small step for man. I was rolling on the moon one day.
La vue panoramique sur la Terre.
Attention pour les confinements. 5, 4, 3, 2, 1, top.
Bonjour, vous êtes sur RVR, émission Quoi de neuf là-haut avec le chaos. Bonjour Aurélie.
Bonjour Olivier.
Alors, nous allons attaquer les actualités de ce mois. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Aurélie?
Alors, il y a plusieurs petites actualités, je dirais même des grandes actualités au niveau spatial pour ce mois d'avril. Mais je te propose qu'on commence par prendre des nouvelles de notre chère Sophie Adnaud, hein, notre compatriote française qui est à bord de la Station Spatiale Internationale.
Eh bien oui, effectivement, comme tu nous le rappelles Aurélie, Sophie Adnaud est à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, depuis le 13 février dernier. Donc les nouvelles sont bonnes, vous pouvez regarder, elle communique pas mal sur Facebook, elle donne des petites vidéos régulièrement. Donc ces semaines sont bien sûr rythmées par le travail, elle a en 8 mois, 7 à 8 mois à faire 200 expériences qui sont prévues, donc il y a quand même beaucoup,
elle a du boulot, là, hein.
Beaucoup de travail à faire la semaine, mais elle a aussi à faire de la maintenance de la station. Le mois dernier, par exemple, elle a participé à la préparation de ses collègues qui devaient faire une sortie extravéhiculaire. Donc là, il faut des gens pour les habiller, pour les déshabiller, pour les aider à enfiler toutes leurs combinaisons pour sortir, pour vider le sas. Donc elle s'est occupée. Elle n'est pas sortie, hein.
Oui, elle n'est pas encore sortie.
Elle s'est occupée de tout ça. Donc ça demande au moins une journée de travail, une journée où elle fait pas d'expérience. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire dans la station.
Est-ce qu'on a une idée de son emploi du temps, de son organisation, justement?
Oui, alors c'est l'organisation est la même pour tout l'équipage. Donc ils ont du lundi au vendredi travail, expérience, maintenance, préparation de sortie dans l'espace. Enfin, ça dépend ce qu'il y a à faire. Déjà pour ce travail-là, tous les matins, en se levant, ils ont un listing de ce qu'ils ont à faire dans la journée communiqué par le sol. Tous les
ah
matins.
Oui, ça rigole pas. Hein.
Ouais. Donc le soir, ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir à faire le lendemain, mais le lendemain, on leur dit le matin, voilà, aujourd'hui, il faut que vous fassiez ça, ça et ça et ça. Après, le samedi, il est prévu qu'ils fassent le ménage et le rangement, parce que c'est un peu le bazar, il faut dire, dans la Station Spatiale Internationale.
C'est petit.
C'est petit, et puis quand on voit les photos, il y en a un peu de partout, voilà, puis tout flotte, donc voilà. Donc ménage et rangement, et dimanche, repos.
Ah, ils ont le droit à un jour de repos.
Le dimanche repos. Donc, Sophie Adnaud en profite pour regarder. Ils ont un endroit qui s'appelle la Cupola. C'est un endroit qui est orienté vers la Terre, où ils ont plein de baies vitrées, enfin, où ils peuvent regarder la Terre, l'admirer. Alors, ils sont tous friands d'y aller. On peut y aller à un ou deux maximum. Donc,
oui.
Comme ils sont sept, il faut aussi qu'ils se
répartissent le temps,
les rôles. Et puis, elle en profite pour faire des petites vidéos d'expériences de physique pour les jeunes, pour les étudiants. Voilà, il y a quelques jours, elle avait mis en vidéo une expérience avec des gyroscopes. Elle faisait tourner des gyroscopes et elle montrait comment on pouvait, avec ces gyroscopes, se diriger dans l'espace alors qu'il n'y a ni haut, ni bas, ni pesanteur.
Oui. Justement, on sait que son départ a été avancé en février dernier, hein, suite au retour précipité de l'équipage précédent, suite à un problème de santé sur un des membres. As-tu eu des infos complémentaires suite à ce retour précipité?
Oui, alors au départ, la NASA avait dit, nous, secret médical, on ne dit pas plus. Et en fait, c'est la personne concernée qui a communiqué. Donc, on peut...
Elle avait le droit, tu crois?
C'est pour sa santé même, donc on peut y aller. Donc effectivement, les quatre membres de l'équipage précédent, qui est l'équipage numéro 11 de SpaceX, est rentré plus tôt que prévu, avant l'arrivée de l'équipage avec Sophie Adnaud. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu faire la liaison entre eux, ce qui fait que ça a demandé un peu plus de temps, parce que, en gros, c'est où tu m'as mis la clé de 12, mais je l'ai rangée là, ben je ne le trouve pas. Enfin bon, bref, c'est un peu, c'est un peu ça. Hein, voilà. Donc, ils sont rentrés parce qu'ils avaient dit qu'il y avait un des membres de l'équipage présent qui avait un problème de santé. Donc, en fait, on sait aujourd'hui que c'était le pilote Michael Fink. Donc, il y avait un problème de santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui l'a raconté, hein, donc on peut le dire aujourd'hui.
On pensait que, alors sauf erreur de ma part, mais on pensait que c'était là. Il y avait une femme avec eux.
Oui.
Et on pensait tous que c'était
oui,
la femme.
Oui.
Ok.
Comme quoi, un peu
donc,
de misogynie. Hein,
ouais, voilà. Les jugements, messieurs, attention.
Donc en fait, pas du tout. Donc c'était bien le pilote, Michael Finn. Et donc, il devait faire une sortie dans l'espace, donc comme prévu. Hein.
Oui.
Donc combinaison, enfin tout un équipement. Et au moment où ses collègues commençaient à lui mettre l'équipement, il a eu un malaise et il a perdu l'usage de la parole pendant 20 minutes.
Oh ah oui, effectivement.
C'est quand même chaud.
Oui,
hein.
Oui.
Donc il n'arrivait plus à communiquer, plus à dire un mot. Voilà, il n'était pas bien du tout. Donc bien sûr, ils ne l'ont pas fait sortir. Ils ont annulé la sortie. Et puis, au bout de 20 minutes, c'est revenu. Mais bon, voilà, ils ont pensé à plein de choses, à un AVC, enfin à des choses comme ça. Bon, après, c'est revenu. Mais par précaution, ils l'ont fait rentrer. Alors, il a raconté que là, maintenant, au retour, il a passé un scanner, IRM, enfin, ils ont passé tous les examens neurologiques et que là, il va bien. Qu'il n'y a plus de problème.
Pas d'explication.
Il n'y a pas d'explication. Ce qu'il dit, lui, c'est qu'il y a peut-être une explication parce qu'il est plutôt jeune. Alors, il est plutôt jeune. Pour aller dans l'espace,
oui.
Hein, on est bien d'accord. Hein, voilà. Il a 59 ans. L'organisme est bien sollicité aujourd'hui quand on est dans l'espace, au niveau cardiaque, au niveau plein de choses. Et donc, voilà, il se trouve que c'est peut-être une alerte
peut-être
pour
une
dire
limite,
que,
oui,
ouais, à cet âge-là, l'organisme est trop sollicité. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, il va bien et il communique qu'il est en pleine forme.
L'autre côté positif de ce retour précipité, c'est que ça me fait penser au lien sur notre autre émission où on parle de l'histoire. Aujourd'hui, on prend bien plus de sécurité pour nos astronautes, cosmonautes, spationautes qu'à l'époque, dans les années 60, il me semble.
C'est exact. C'est bien.
Et tant bien mieux
exact.
Pour eux.
Et tant mieux pour tout le monde, oui.
Sinon, autre sujet d'actualité de ce mois d'avril, la mission lunaire Artemis 2, qui doit partir à l'heure où nous enregistrons cette émission, pour un voyage de 10 jours autour de la Lune.
Oui, alors, nous enregistrons cette émission, on espère qu'elle va partir, la mission, au mois d'avril. Elle a été déjà retardée plusieurs fois, il y a eu des problèmes techniques, mais comme tu le disais précédemment, je pense qu'à l'époque des missions Apollo, ils partaient.
Quoi qu'il arrive, on y va.
Aujourd'hui, et c'est tant mieux, on prend plein de précautions, on prend beaucoup plus de précautions, donc ce qui fait que les reports s'enchaînent, arrivent, etc. Et le dernier report, elle devait partir fin février. Donc là, il y a eu une fuite, en fait, on sait qu'il y a eu une fuite dans le remplissage des réservoirs d'hydrogène. Et donc, ils ont été obligés de vidanger la fusée, de la ramener sur le hangar, de corriger la fuite, et là maintenant elle est de nouveau repartie sur le pas de tir, l'équipage est prêt, et donc c'est une mission qui doit être, à l'heure où vous entendrez l'émission, partie en direction de la Lune, et c'est une mission qui est habitée, donc il y aura 4 personnes à bord.
Avant de continuer là-dessus, j'ai juste une question, on l'avait peut-être déjà abordée, mais quand il y a des retards comme ça, parce qu'il y en a eu là et bien d'autres, on le sait, ça a un impact sur leur budget de rester sur Terre ?
Alors, ça a un impact sur leur budget, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois qu'ils vidangent tout le carburant. Oui, ça a un impact.
Là, oui.
Ouais, voilà. Sur le reste, non, pas particulièrement.
De non, c'est,
façon,
pas...
Oui, c'est pas... On part pas, ça coûte tant par jour. Non, c'est pas ça. Après,
ils n'ont pas de pénalité de retard.
Ils n'ont pas de pénalité. S'il faut refaire le plein du carburant, bah oui, forcément, ça coûte un nouveau plein.
Oui.
Puis c'est pas des petits pleins, hein, on est bien d'accord. Et puis, par contre, s'il y a des réparations à faire, bah oui, il faut changer une telle pièce, il faut... Voilà, donc...
Oui, ça... mais c'est l'impact, le budget est augmenté seulement s'il y a de la réparation, de la maintenance.
Voilà, c'est ça.
Ok. Donc, concernant cette mission lunaire Artemis 2, vont-ils se poser sur la Lune, Olivier ?
Alors, pas cette fois.
Oh non !
Non. Et en fait, ils vont uniquement faire le tour de la Lune... pour tester le matériel lunaire de nouvelle génération. Puisque ça fait 50 ans qu'on ne s'est pas aventuré avec des êtres humains autour de la Lune.
Et c'est incroyable.
Et donc, le dernier équipage à avoir fait le tour de la Lune et à se poser sur la Lune, c'était en 1972 avec Apollo 17.
Oui.
Donc, ça fait un bout de temps que personne n'est allé aussi loin.
L'équipage d'Artemis 2, on le connaît ?
Oui, bien sûr. Donc, il y a 4 personnes à bord. Il y aura 3 Américains. Donc, dans les 3 Américains, il y a 2 hommes et une femme. Oui, je sais, tu vas me dire, c'est déséquilibré, mais bon.
À ma tête, tu as vu, tu as compris.
Oui, bon, donc de fait. Et la quatrième personne est un Canadien, un homme canadien aussi, donc Jeremy Hansen. Et les Américains, c'est Victor Glover, Gregory Wiseman, et la femme, c'est Christina Koch. Donc, ils vont réaliser un tour de la Lune, et avec, en même temps, plusieurs premières spatiales. C'est, on aime bien, dans le domaine spatial, oui, faire des premières. Hein. Donc, la première spatiale, c'est que c'est la première fois qu'une femme fera le tour de la Lune.
Ah oui, exact.
Aucune femme n'a jamais fait le tour de la Lune. Donc, c'est la première fois qu'une femme fera le tour de la Lune. C'est la première fois qu'un Canadien fera le tour de la Lune. Enfin, qu'un non-Américain, en fait.
Oui, hein, oui, oui.
En fait, c'était toujours des Américains. Et c'est la première fois qu'ils iront à 9000 km plus loin que la Lune. Dans les missions Apollo, ils restaient à peu près à 100-150 km oui, autour de la Lune. Là, ils vont aller à 9000 km au-delà de la Lune. C'est donc le vol le plus lointain humain jamais réalisé, qui serait jamais réalisé à ce
jour. Oui, donc là, il y a plusieurs premières qui vont être atteintes, on le souhaite.
Voilà.
Ma question, s'ils se posent pas sur la Lune, quelle est l'utilité de cette mission et de ce vol ?
Alors, bon, comme je le redis, ça fait 50 ans que personne n'est allé aussi loin. Donc, le matériel a évolué depuis,
oui,
50 ans par rapport aux missions Apollo, heureusement. Et les personnes qui ont travaillé à l'époque sur les missions Apollo, elles sont toutes à la retraite ou elles sont décédées.
Le savoir-faire ?
Voilà, le savoir-faire, c'est perdu.
Ouais.
Donc, il faut reprendre le savoir-faire, il faut refaire les protocoles, tester le nouveau matériel. Et donc, cette mission de 10 jours va réaliser plusieurs tests de sécurité pour que les prochaines missions soient les plus sécurisées possibles. Parce que bon, il y aura Artemis 3, 4, 5, etc.
Oui. Et quel serait l'intérêt de retourner sur la Lune ?
Alors, il y a plusieurs intérêts. Ce que les Américains veulent, c'est construire une base spatiale.
Ah, ça, c'est pas une rumeur, alors. Hein.
Soit autour de la Lune, soit sur la Lune. Alors, pour dire, il y a quelques jours, la base lunaire était prévue autour de la Lune. Alors, on enregistre l'émission avant-hier. Le président Trump a dit que non, il ne la voulait plus. Il voulait une base sur la Lune.
Ah oui.
Bon, peut-être qu'après-demain, il donnera une autre version. Je ne sais pas.
Une sur la Lune et une en dehors.
Non, il n'y en aura pas deux. La seule chose qu'il a oubliée, je pense qu'il a donné sa déclaration, c'est que les modules de la base lunaire autour de la Lune sont déjà construits.
Aïe.
Peut-être qu'il n'a pas eu l'info. Bon, bref.
Ouais, oui.
Peut-être qu'avec RVR, on lui donnera l'info. Bon, donc la base lunaire, ils vont poursuivre les vols habités dans la station internationale où est Sophie Adno aujourd'hui, mais que jusqu'en 2030 ou 2032.
Oui, parce qu'elle est vieillissante.
Voilà. Donc après, ça serait plutôt une base lunaire sur la Lune ou autour de la Lune, on verra.
Oui.
Il faut apprendre à vivre sur la Lune, à exploiter les ressources du pôle Sud, qui sont très importantes puisqu'il y a de l'eau, et donc de l'oxygène et de l'hydrogène. Hydrogène pour les fusées et de l'oxygène pour les astronautes.
Donc, il y a tout ce qu'il faut.
Oui.
Donc, si tout ça est fait, c'est qu'il y a de l'ambition d'y aller. Et est-ce qu'on a une idée des prochains projets sur la surface lunaire ?
Alors, pour arriver sur la surface lunaire, il faut remettre en place un alunisseur. À l'époque Apollo, il y avait le LEM.
Oui.
Bon, mais les technologies ont évolué. La NASA ne veut pas se lancer dans un alunisseur. Et donc, elle a lancé un appel d'offres à des sociétés privées.
Oh ! Qui a répondu à l'appel d'offres ?
Donc, il y en a deux qui ont répondu. SpaceX et Blue Origin, toujours les mêmes, hein, les deux milliardaires. Mais en fait, ils ne sont pas prêts.
Ah !
L'alunisseur n'est pas prêt. Alors, certes, le patron de SpaceX dit à chaque fois que c'est un demi-échec.
Oui.
C'est bien son topo, une demi-réussite.
Demi-réussite.
Mais en fait, la NASA ne veut pas de demi quand il y a des gens à bord. Hein. Voilà.
Oui.
Donc, pour l'instant, il n'est pas prêt. Et donc, il devait, la mission Artemis 3 devait alunir. Mais comme l'alunisseur n'est pas prêt, la NASA a demandé qu'il y ait un test de l'alunisseur en orbite terrestre, parce que c'est un peu compliqué, pour voir si tout va bien avant d'envoyer un alunisseur sur la Lune. Comme déjà en orbite terrestre, on n'y arrive pas.
Oui,
donc
oui.
La mission Artemis 3, 2028 peut-être, je ne sais pas, enfin ça dépend quand est-ce que l'alunisseur sera prêt, devrait tester l'alunisseur en orbite terrestre. Et après seulement, si tout va bien, ils iront vers la Lune. Peut-être 2030.
On n'est pas prêt d'en parler sur RVR.
On va en parler. Par contre, il faut savoir que les Chinois, eux, ils ont dit qu'ils iraient avant 2030.
Oui, on en avait parlé une fois. Ouais. Tu
et leur
dit.
Module lunaire est prêt.
Ouh. C'est bien, ça change de ce qu'on voit dans les années 60, hein, les Soviétiques,
voilà,
et les Américains. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes en compétition.
Voilà, leur module lunaire est prêt. Et ils ont déjà choisi la personne qui marchera sur la Lune pour les Chinois. Ce sera une femme.
Incroyable. Je les aime déjà. Eh bien, merci pour toutes ces infos. Hein. L'actualité spatiale, comme vous avez pu l'entendre, est riche en vols habités en ce moment. Et nous suivrons toutes ces aventures au fur et à mesure de leur évolution.
Nous faisons maintenant une pause musicale. Qu'allons-nous écouter, Aurélie ?
Eh bien, je vous propose d'écouter « Écris l'histoire » de Grégory Lemarchal.
À tout de suite.
Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. Dis-moi, tu me préfères à genoux, parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton
nous nous retrouvons pour cette seconde partie d'émission. Bonjour Elios et David.
Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Alors pour ce mois d'avril, Elios, quelle va être ta question?
Je me posais des questions sur les galaxies. Par exemple, comment elles se forment. Quand je regarde des photos de la Voie lactée, je vois au centre une espèce de grosse étoile et tout. Je me demande c'est quoi.
Alors, plein de questions dans ta question.
Ouais.
On va commencer par d'abord une définition de la galaxie.
Hein. Un gros sujet.
Par ça.
Mais déjà, j'ai une question pour toi, Elios. Pour toi, ça date de quand, la notion de galaxie? Quand est-ce qu'on s'est dit qu'il y avait d'autres galaxies?
À peu près au même moment qu'on s'est dit qu'il y avait un système solaire.
Ah, donc, il y a très longtemps.
Ah, c'était il y a très longtemps.
Le système solaire, les Grecs avaient déjà identifié les planètes, savaient que... Ils ne savaient pas ce qui tournait autour de quoi. Mais en tout cas, il y avait une notion de... Il y a des astres, il y a des planètes qui se tournent autour. Mais donc, à ton avis, à cette époque, on avait déjà cette notion de galaxie?
Non, pour moi, c'est plus en 1900, un truc comme ça.
Ouais. Alors, en fait, la galaxie, on a tendance des fois à être étonné de
c'est récent.
Ça, mais c'est très récent. Hein. La notion de galaxie, en réalité, elle date du début du XXe siècle, des années 20, en réalité. Donc, pour rappel déjà d'une définition, une galaxie, c'est un grand ensemble gravitationnel qui est composé de quelques milliards à quelques milliers de milliards d'étoiles. On y trouve aussi des gaz, des poussières, on y trouve beaucoup de matière noire, on y reviendra, en tout cas dans les théories actuelles. Et dans la plupart des cas, un trou noir supermassif qui se trouve au centre.
Mais on peut, par rapport au mois dernier, on peut trouver aussi des planètes et des satellites.
Exactement, autour des étoiles.
Des étoiles de chaque galaxie. Voilà.
En fait, les galaxies, c'est les unités fondamentales de la structure de l'univers. L'univers observable, on rappelle, c'est tout ce qu'on peut voir de l'univers. On sait qu'il y en a au-delà, mais de toute façon, on ne pourra jamais le voir. L'univers observable contient entre 200 et 1000 milliards de galaxies. Alors, ça fait un certain nombre, hein. Et donc on disait que cette découverte elle est assez récente puisque avant les années 20 on pensait réellement que la Voie lactée c'était tout notre univers, c'est-à-dire que on observait des choses, il y avait des étoiles, on parlait déjà de la Voie lactée, on disait la Voie lactée, mais la Voie lactée c'était notre univers, et puis on observait beaucoup de nébuleuses, hein, on observait donc des nébuleuses, il y avait des nébuleuses spirales notamment. Et en 1924, il y a un astronome qui s'appelle Edwin Hubble. Je pense que tu as déjà entendu ce nom, Hubble.
Oui, bah, c'est un télescope.
Voilà, donc il est...
Avant d'être un télescope, c'est un homme.
C'était un astronome qui, lui, finit par démontrer. Alors, on en a parlé dans une émission précédente, mais il démontre que ce qu'on appelait à l'époque la nébuleuse d'Andromède, en réalité, est située bien au-delà des étoiles qu'on observe, les étoiles indépendantes. Et donc, il en déduit que. Bah, la Voie lactée, c'est un paquet d'étoiles, mais qu'au-delà de ce paquet d'étoiles, il y a d'autres paquets d'étoiles énormes aussi, qui nous semblent être des nébuleuses, mais qui en réalité sont juste un ensemble d'étoiles très lointains. Et donc, on en déduit ce concept de galaxie, de dire que la Voie lactée, finalement, c'est une galaxie, mais qu'il existe des milliers, des millions, des milliards d'autres galaxies qui sont bien plus loin. Et donc ça étend vraiment... notre champ de perception de l'univers. C'est-à-dire que tout d'un coup, là où on se disait avant, tout est dans la Voie lactée, tout est, entre guillemets, relativement proche, finalement, il y a aussi ces paquets d'étoiles qui sont à des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière.
Alors, on revient à ta question, parce qu'il y avait plusieurs questions dans ton introduction. Donc, on a fait la définition de la galaxie. Ensuite, qu'est-ce que tu voudrais savoir ?
Comment elles se forment, les galaxies ?
Alors, la formation des galaxies, c'est une vaste question qui nous amène finalement très très loin dans le temps, puisque la formation des galaxies, elle commence peu de temps après le Big Bang. Hein. En fait, à partir du moment où on a cette expansion massive de l'univers qui est le Big Bang, une matière qui à l'époque est relativement homogène, il y en a un peu de partout, il y a des tas de poussière, etc., de matière, et donc la matière, elle va se regrouper sous forme de gravité. En fait, on pense aujourd'hui, et on va revenir un peu sur cette définition, mais que la matière noire a joué un rôle important dans la formation des galaxies. Concrètement, aujourd'hui, la matière noire, c'est une matière dont on sait qu'elle a une masse, mais on ne sait pas ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'observer. On peut la mesurer, mais on ne sait pas de quoi elle est formée. C'est une matière invisible, qu'a de la masse, mais qu'on ne peut pas voir. Et donc, on suppose qu'à cette époque-là, cette matière noire, elle joue un rôle clé, elle va former des puits gravitationnels où le gaz va s'accumuler et les premières étoiles vont apparaître. Et en fait, la matière noire, elle va garder toutes ces poches de matière regroupées. Et c'est ce qui va former les galaxies. Alors, pourquoi on s'est posé la question de cette matière noire ? C'est parce que dans les années, au milieu du XXe siècle, il y a une astronome américaine qui s'appelle Vera Rubin qui s'est intéressée justement aux galaxies et qui, à l'époque, tout le monde s'intéressait au centre des galaxies. On voulait observer les trous noirs supermassifs, des choses très excitantes. Elle s'est dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas de regarder ça. Tout le monde regarde ça. Je vais aller regarder le tour des galaxies. Je vais m'intéresser à... » Voilà. Et en fait, elle a mesuré la vitesse de rotation des galaxies. Elle s'est rendue compte de quelque chose de très curieux. C'est que si on suit le modèle de la physique qu'on utilisait à l'époque... les galaxies, elles auraient dû disperser. Elles tournaient trop vite. La force centrifuge des galaxies aurait dû éjecter toutes les étoiles extérieures des galaxies et disperser les galaxies. Et donc, c'est suite à ce constat-là qu'on a établi cette théorie de la matière noire qui dit qu'il y a une matière invisible. Donc, on ne sait pas ce qu'elle est, mais elle est massive, qui maintient les galaxies formées, qui les maintient en paquet telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc la formation des galaxies, elle est encore un peu mystérieuse, puisqu'elle fait appel à des concepts qui sont bien pratiques sur le papier pour les mathématiques et la physique, mais dans un télescope, on ne voit pas trop.
Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et le fameux télescope James Webb découvre des galaxies à une époque dans l'histoire de l'univers où on pensait qu'il n'y aurait pas de galaxies.
Exactement. Donc c'est vraiment, ça fait partie des mystères aujourd'hui. La formation des galaxies, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus et c'est un champ très actif de la recherche scientifique.
Alors tu nous disais que tu avais vu au centre des galaxies...
Une sorte de grosse étoile, je ne sais pas ce que c'est.
Alors effectivement, j'ai parlé de trous noirs supermassifs. Alors c'est vrai que dans l'inconscient, on peut se dire, bah, trou noir, oui, c'est un gros noir. Truc noir, quoi. Mais en réalité, effectivement, comme tu le dis, quand on observe les galaxies, au centre des galaxies, c'est très lumineux. Alors c'est très lumineux pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est les zones des galaxies qui sont les plus denses. Donc, comme ce qui peuple les galaxies, en majorité, c'est des étoiles. Bah, une grosse densité d'étoiles fait que bah, c'est très lumineux. Et puis, autour des trous noirs supermassifs, on va trouver ce qu'on appelle un disque d'accrétion. C'est de la matière en rotation très rapide qui va chauffer très fort et qui va du coup dégager beaucoup de lumière. Donc, dans l'immense majorité des galaxies qu'on observe, il y a ce trou noir supermassif qui est au centre, qui est un peu le cœur. Et c'est vraiment les zones les plus actives des galaxies, ce cœur.
Et il se passe quoi si deux galaxies, elles se rendent dedans ?
Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Eh bien, je t'invite à attendre un petit peu.
Ok.
Puisque si tu attends un petit peu, tu assisteras peut-être au choc entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède.
Bon, alors, attendre un petit peu, c'est-à-dire
On va attendre quelques milliards d'années. Bon, ça...
Tu n'es pas pressé, Elios ?
Non, ça va.
Voilà, c'est un peu long. Mais voilà, sache qu'effectivement, la galaxie d'Andromède et la Voie lactée se rapprochent et, à terme, vont rentrer l'une dans l'autre. Alors, on peut imaginer un phénomène absolument cataclysmique. Hein. La galaxie, c'est des choses énormes. On imagine tout d'un coup des explosions, des choses... Bon. La réalité est un petit peu moins sexy. En fait, l'espace, c'est très vide. L'espace, c'est beaucoup de vide, peu de matière, très espacée dans beaucoup de vide. Et en réalité, quand deux galaxies se rentrent l'une dans l'autre, la probabilité pour que deux étoiles ou deux planètes se percutent est quasi nulle. C'est-à-dire que il y a tellement de vide entre les étoiles et entre les planètes qu'elles vont se passer à travers l'une de l'autre, rebondir, c'est-à-dire qu'elles vont la gravité va faire qu'elles vont se rentrer dedans, puis s'écarter un peu, puis se rapprocher encore. Il va y avoir un espèce d'effet de ressort, comme ça, elles vont rebondir, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, jusqu'à fusionner en une seule et grande galaxie. Mais le risque d'impact, finalement, est statistiquement quasiment nul. Alors, ça reste du domaine du possible, mais ça sera vraiment des phénomènes très ponctuels et très rares. Donc en fait, déjà ça se passe dans des temps qui sont très longs, hein. Mais ce n'est pas des phénomènes très spectaculaires.
Alors, ce qui sera le plus spectaculaire, pour ceux qui le verront dans des milliards d'années, s'il y a des êtres humains, c'est que les constellations vont devenir différentes.
Ah.
Il va y avoir des étoiles qui vont se mettre dans la grande, dans la grande ours, dans Orion, et d'autres qui vont peut-être être attirées ailleurs. Voilà.
Ah, ça va changer complètement la disposition du ciel nocturne.
Et donc ça fera une galaxie à deux trous noirs ?
Ah, alors.
C'est autre chose.
Ça, c'est encore autre chose. On suppose que non. Alors il n'y aura pas deux trous noirs. Les trous noirs vont finir par fusionner. Mais c'est des phénomènes qui sont encore pas forcément complètement connus. Mais oui, on suppose que la résultante sera la fusion de deux trous noirs, et ce qui va d'ailleurs engendrer quelque chose dont tu as peut-être entendu parler il y a quelques années, c'est la détection d'ondes gravitationnelles. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. Mais aujourd'hui, les scientifiques cherchent, pour prouver des théories actuelles, notamment les théories de la relativité générale, de détecter des ondulations dans l'espace-temps. Et en fait, la fusion de deux trous noirs supermassifs provoque des ondulations, des vagues dans le tissu même de l'espace-temps. Et ça, on l'a détecté dans le passé. On sait que c'est quelque chose de réel. Donc voilà, ça fait partie des phénomènes qui seront la résultante de la fusion de ces trous noirs supermassifs.
Et il y a plusieurs types de galaxies ou alors c'est tout sur le même modèle ?
Alors on parlait le mois dernier de nomenclature, hein, on est en plein dedans là. Effectivement, on aime bien, hein, les hommes et les scientifiques aiment bien classer les choses, aiment bien mettre les choses dans des cases. Donc effectivement, il y a plusieurs catégories de galaxies. Alors on va trouver les galaxies spirales, donc ça, le terme parle de lui-même. Hein. On représente la Voie lactée comme une galaxie spirale. La galaxie d'Andromède est une galaxie spirale. C'est un peu l'image classique qu'on a de la galaxie. Hein. Alors, il y a plusieurs sous-catégories hein, dans les galaxies spirales. Il y a les galaxies spirales, les spirales barrées, il y a des choses. C'est tout un bestiaire. Ça représente environ 60% des grandes galaxies. Et c'est des galaxies qui sont souvent assez actives. Il y a beaucoup de jeunes étoiles qui se forment. Après, on va trouver les galaxies elliptiques. Donc là, c'est des galaxies qui ont une forme soit sphérique, soit ovale. C'est des galaxies qui contiennent peu de gaz et souvent qui ont des populations d'étoiles assez âgées. Donc, c'est des galaxies moins actives. Et puis, on trouve aussi des galaxies qu'on va appeler irrégulières. Alors, c'est pas très original, mais c'est en forme de
patate. On ne sait pas où les mettre.
On ne sait pas comment les classer. Et elles, au contraire, sont souvent riches en gaz. Et souvent, elles peuvent être le résultat de fusion entre deux galaxies. Ça peut obtenir des galaxies avec des formes un peu bizarroïdes.
Est-ce que tu as une dernière question, Elias?
Oui, est-ce que les galaxies, elles sont toutes plates?
Plates.
Plates, bah c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Oui. Alors, ça dépend ce que tu entends par plat. Mais globalement, oui, les galaxies sont relativement aplaties, mais tout comme l'est le système solaire, en fait.
Mais si on regarde par la tranche, c'est comment?
Si on regarde par la tranche, il y a une certaine épaisseur, mais effectivement, une galaxie n'est pas une sphère ou une boule. Il y a vraiment ce côté beaucoup plus étendu dans deux axes que dans le troisième axe. Donc, souvent, les galaxies vont alors, l'épaisseur, entre guillemets, des galaxies se compte quand même en années-lumière. Hein, c'est assez important. Mais quand on imagine que notre Voie lactée fait 100 000 années-lumière de large... Si elle en fait 2 ou 3 d'épaisseur, ça reste quand même un objet relativement plat. On n'est pas dans les proportions d'une feuille de papier, mais je pense qu'on peut se dire que c'est les proportions d'un pancake, par exemple.
Et qu'est-ce qui fait justement que c'est plat?
Eh bien ça, c'est une résultante naturelle de la rotation. Les lois de la physique font que tout objet en rotation va finir par s'aplatir. Hein, même un ballon, hein, si tu le fais tourner très vite, il va avoir tendance à s'aplatir. La Terre est légèrement aplatie au pôle parce qu'elle tourne. Le système solaire s'est organisé de façon plate puisque c'est de la matière qui tourne autour d'une étoile. Donc ça, c'est une constante un peu universelle des lois de la physique, c'est que toute structure en rotation va avoir tendance à s'aplatir, et une galaxie ne déroge pas à cette règle-là.
Merci Elios pour tes questions, merci David pour tes réponses, tu nous as fait voyager dans l'univers des galaxies aujourd'hui. Bonsoir à tous les deux.
Bonne soirée.
Au revoir.
Et nous vous souhaitons bonne soirée sur Radio Val-de-Rhin.
Vous venez d'écouter l'émission « Quoi de neuf là-haut avec le chaos ?»